Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes, donc, je viens de les citer, Louis Osalter, Dimitri Pavlenko, et on commence d'abord avec Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Nous revenons ce matin sur le feuilleton extraordinaire Alexei Navalny, du nom du célèbre opposant russe, transféré dimanche dans un hôpital de Berlin après 24 heures de grande incertitude ce week-end. Il est toujours dans le coma. Dans cette affaire, il y a du nouveau depuis quelques heures, car hier, le gouvernement, puis les médecins allemands, ont confirmé que Navalny a bel et bien été empoisonné.
Alors, on a ce matin à la fois le constat médical, c'est-à-dire les traces de poison, et puis on a aussi, ce qui est très important, le message politique clair des Allemands. Nous ne sommes pas dupes. Mm-hmm. Pas dupes des mensonges russes, et il y en a eu au moins trois en trois jours. D'abord celui des médecins de Sibérie, où Navalny a été pris d'horribles douleurs après avoir bu un thé un peu bizarre à l'aéroport. Les médecins d'Omsk ont réfuté toute trace d'empoisonnement en parlant dans un premier temps d'un problème de glycémie. Ensuite, un deuxième mensonge du Kremlin qui a expliqué que Navalny était intransportable pour des raisons purement médicales, alors que deux heures plus tard, les médecins sibériens donnaient leur feu vert à un transfert vers Berlin. Et puis, mensonge probable aussi de cette pauvre équipe médicale qui a cru bon de préciser, après tout ça, qu'elle n'avait subi aucune pression politique du Kremlin, alors que l'affaire faisait déjà le tour du monde. Alors, si vous voulez, les Allemands, comme d'autres, ils savent en plus que les Russes ont un savoir-faire particulier quand ils veulent éliminer un personnage gênant. Souvenez-vous de l'ancien espion Alexandre Litvinenko, oui, qui lui aussi avait pris une tasse de thé fatale avec deux agents russes dans un palace londonien. Il en est mort au bout de quelques semaines. Et le crime était tellement imparfait que les enquêteurs avaient retrouvé des traces de polonium, le produit hautement radioactif, jusque dans les lavabos de l'hôtel. On pourrait rappeler aussi le sort de Boris Nemtsov, autre opposant à Vladimir Poutine, assassiné à Moscou en 2015 sur le pont qui mène au Kremlin, sous les fenêtres de Vladimir Poutine, ou encore le meurtre par des tueurs à gages de la journaliste Anna Politkovskaya, oui, vous savez, la bête noire du président russe, coupable d'avoir signé des articles au vitriol contre la guerre en Tchétchénie. Eh bien aujourd'hui, le gouvernement allemand dit publiquement « stop, mensonge du pouvoir russe ».
Et Angela Merkel va même un peu plus loin aujourd'hui, puisqu'elle demande à la Russie de punir les coupables.
Oui, alors là, nous sommes dans l'art d'incriminer le Kremlin sans citer nommément Vladimir Poutine. Parce que chacun sait qu'avec Moscou, vous savez, il y a une ligne jaune à ne pas franchir. Hein. On peut dire les choses, on peut s'inquiéter, on peut interpeller, mais on évite surtout la rupture. La ligne diplomatique de l'Allemagne, comme de la France d'ailleurs, c'est d'éviter l'isolement de Moscou, ou d'éviter de jeter les Russes, par exemple, dans les des Chinois. Les Français et les Allemands ont des motivations un peu différentes, c'est vrai. Pour Berlin, la Russie, c'est avant tout un partenaire économique stratégique. Alors Paris considère qu'on ne peut pas mettre la Russie au banc des nations pour des raisons géopolitiques, surtout face à un Donald Trump imprévisible. Et puis, l'actualité immédiate, Bernard nous le rappelle, Moscou garde une zone d'influence dans l'espace soviétique d'hier, notamment vis-à-vis de son voisin biélorusse.
Bien sûr.
À un moment où le pouvoir autoritaire d'Alexandre Loukachenko chancelle, il est contesté. C'est dans la rue, on le sait depuis 15 jours. Il y a un homme que Loukachenko écoute encore et prend au téléphone, c'est Vladimir Poutine. Et le président russe est le seul qui peut faire tomber le régime biélorusse en l'étouffant économiquement. D'où l'utilité pour les Européens, là aussi, de ne pas couper tous les ponts avec le Kremlin.
Alors, j'ai encore une question qui peut paraître un peu naïve. Quel intérêt M. Poutine aurait-il à supprimer un adversaire comme Navalny?
La réponse est un peu dans votre question, cher Bernard. Parce qu'il ne vous a pas échappé que pendant le confinement du printemps, Vladimir Poutine a beaucoup travaillé et il a notamment fait voter une réforme constitutionnelle audacieuse qui lui permet de rester au Kremlin jusqu'en 2036.
Ça ne m'a pas échappé.
Et ben, à l'heure où sa popularité en plus est moins flamboyante qu'avant, le président russe peut avoir, disons, la tentation de faire le ménage parmi ceux qui voudraient le défier dans les urnes.
Merci beaucoup en tout cas pour ce point de situation sur l'affaire Navalny, affaire extraordinaire entre toutes avec Emmanuel Faux. Louis Osalter, il opère à Marianne, vous l'avez beaucoup entendu cet été dans les Esprits Libres. Louis, bonjour.
Bonjour Bernard.
La mission du gouvernement, et d'ailleurs il va le prouver encore tout à l'heure avec le Conseil de défense, j'imagine, c'est de faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de reconfinement. Louis Osalter, donc, c'est un peu la rentrée politique de M. Macron aujourd'hui, sauf que le président va pas tenir un Conseil des ministres classique, mais un Conseil de défense sanitaire. C'est pas le premier d'ailleurs, hein. Il y en a eu, je me semble-t-il, au moins un ou deux. Ça veut dire tout de même sur le papier que la situation est grave ou au moins ne s'améliore pas.
Oui, bien sûr. Bah, on le voit dans l'évolution de l'épidémie. Alors, Conseil de défense sanitaire, donc derrière ce terme marketing, hein, parce que ça reprend la rhétorique de la guerre au virus qu'avait entonné Emmanuel Macron dès le début du confinement. Concrètement, c'est une sorte de super conseil des ministres. Alors, ça se passe à l'Élysée, hein, comme un conseil des ministres, mais en cercle plus restreint. Donc, c'est plus efficace pour prendre les décisions. Il n'y a pas tout le protocole un peu qui en sert un conseil des ministres. Ce qui se passe, c'est que les ministres concernés viennent faire le point sur la situation, ils viennent confronter leurs préconisations, et là, les décisions sont prises assez vite. Alors concrètement, ce matin, par exemple, dans les invités, il y a la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, donc elle doit bien se rendre au Conseil de défense sanitaire ce matin, et elle a promis aux professionnels du spectacle vivant d'aller soutenir la fin de la distanciation dans les salles pour sauver un secteur qui crie à l'agonie. Alors est-ce que le ministre de la Santé, qui sera là aussi, sera d'accord? C'est ça, en fait, tous les débats qui ont lieu dans un Conseil de défense sanitaire.
Et l'arbitre, c'est Monsieur Macron.
Oui, tout à fait. D'accord. C'est la décision présidentielle qui prévaut. Alors, d'autres sujets vont être abordés. Il y a un sujet assez crucial qui est l'éventuelle gratuité des masques pour les collégiens et lycéens, puisqu'ils seront obligés de les porter en cours. Donc ça, c'est à la fois l'instrument de décision et la communication, avec la volonté de montrer que le gouvernement est au travail contre le coronavirus. Mais il y a surtout quand même, en cette rentrée, une vraie fébrilité dans les couloirs de l'exécutif.
Vous dites fébrilité parce que, clairement, le spectre d'un nouveau confinement se profile ?
Justement, Bernard, un nouveau confinement, c'est exactement ce que le pouvoir veut éviter à tout prix. Puisque dans les cercles du pouvoir, on a maintenant un peu de recul pour analyser le confinement du printemps. C'était un arbitrage pris face à une situation qui était désespérée, à cause de la pénurie de tout, pénurie de masques, de tests, de places à l'hôpital, pénurie de tout. Ça n'a pas échappé à l'opinion publique. Et c'était un arbitrage politique très lourd qui avait été pris par Emmanuel Macron. Soit on sacrifiait des groupes entiers de malades qui n'auraient pas eu de place à l'hôpital, soit on sacrifiait la vie économique, des PME, des emplois. Donc bref, c'était soit la catastrophe sanitaire, soit la catastrophe économique. Et comme dans de nombreux pays, le gouvernement a choisi la catastrophe économique. Donc on a sauvé des malades, mais on se retrouve, et on le voit en cette rentrée, avec de nombreux chômeurs qui viennent rallonger les files d'attente à Pôle emploi et des nouveaux pauvres qui risquent évidemment de sombrer dans la misère.
Mais du coup, l'hypothèse d'un reconfinement généralisé est totalement écartée, quelle que soit l'évolution du virus.
Alors Emmanuel Macron a dit, nous ne nous interdisons rien, mais derrière, il faut bien comprendre que dans la pile des solutions posées sur le bureau de l'exécutif face à l'épidémie, je peux vous dire que le reconfinement, c'est tout en bas, c'est à la dernière place. Tout simplement parce que la France ne peut pas se le permettre une seconde fois. Et d'ailleurs, l'exécutif s'en cache pas. Hein. À peine arrivé à Matignon en juillet, le Premier ministre Jean Castex avait prévenu qu'on ne supporterait pas économiquement et socialement un reconfinement absolu et général, parce qu'en plus ça aggrave les inégalités, un confinement absolu sur tout le territoire. Et Emmanuel Macron lui-même l'a confirmé la semaine dernière dans Paris Match, en estimant que les dommages collatéraux d'un confinement étaient trop considérables. Alors du coup, le gouvernement doit jouer les gendarmes pour éviter d'en arriver là, il doit imposer le port du masque, il doit lutter plus vite contre les foyers épidémiques en jouant la course contre la montre dans chaque nouveau foyer, département par département, en appelant et en testant les personnes exposées. C'est-à-dire que le gouvernement doit gérer la situation au jour le jour, à travers leur conseil de défense sanitaire comme celui de ce matin. Et ça le prive de toute visibilité, évidemment.
Merci beaucoup, Louis Osalter. Et sur tous ces thèmes, il sera forcément intéressant d'écouter Jacques Attali tout à l'heure à 8h15, puisque son dernier livre, L'économie de la vie, traite de tout cela. Il y a eu l'avant-Covid, et puis maintenant on est dans le poste. Et comment est-ce qu'on va gérer le monde de demain et d'aujourd'hui? Toutes ces questions avec Jacques Attali à 8h15. Et le troisième éclairé du matin, c'est Dimitri Pavlenko, que je ne vous présente
illuminé,
pas.
Hein.
Alors écoutez, il paraît que c'est l'application dont tout le monde parle en ce moment, pas moi, parce que c'est un monde mystérieux qui m'échappe complètement.
Vous n'êtes pas dans votre Nokia,
Non, surtout pas. Là, mais non, ça y est, je suis passé au truc phone, là, maintenant, j'ai un truc intelligent. Donc, ça s'appelle TikTok. C'est une application de partage de vidéos, ça vient de Chine, ça compte 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, mais TikTok se retrouve dans le collimateur de Monsieur Trump. On en a parlé, hein, ça fait déjà quelques semaines qu'il l'a dans le nez. Le 6 août dernier, le président américain a signé un décret pour bannir des États-Unis le méchant TikTok et une autre appli chinoise très populaire dont j'ai jamais entendu parler, WeChat. Alors tout ça, pour moi, c'est de l'hébreu, Dimitri. Ouais. Pourquoi Trump, expliquez-nous simplement, pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur ces deux-là particulièrement?
Parce que TikTok et WeChat, c'est absolument énorme, Bernard. Je vais vous expliquer, c'est plus gros que Facebook.
Apprenez-moi la vie.
Oui, c'est plus gros que Facebook, c'est plus gros qu'Instagram, en tout cas en nombre de téléchargements l'an dernier aux États-Unis. Et si vous prenez WeChat, donc qu'on connaît assez mal en France, c'est ce qu'on appelle une super application. Quand vous avez WeChat dans votre téléphone, et là, des centaines de millions de Chinois ont WeChat dans leur téléphone, vous pouvez parler à vos amis, les appeler, partagez vos photos, vous y avez votre compte bancaire, ça veut dire que vous pouvez payer, vous pouvez commander en ligne, vous pouvez réserver un taxi, un avion, vous pouvez prendre un rendez-vous médical, vous y stockez aussi votre identité. La carte d'identité des Chinois aujourd'hui, c'est WeChat, c'est le centre de la vie numérique et même de la vie tout court. Oui. De centaines, de plus d'un milliard, 100 millions de personnes dans le monde, alors essentiellement en Chine pour le moment, mais aux États-Unis, vous avez de plus en plus d'utilisateurs. 40 millions d'utilisateurs pour WeChat aux États-Unis, 70 millions pour TikTok, qui est une application davantage ludique. Alors pourquoi Donald Trump s'attaque à ces deux applications ? Parce que c'est, si vous voulez, la partie vraiment conquérante aujourd'hui de la technologie chinoise, de la tech chinoise. On avait déjà vu que la tech chinoise était dans le collimateur des États-Unis avec
Huawei.
Voilà, qui
Huawei.
Était pareillement accusé d'espionnage. Mais d'une certaine manière, c'était plus facile de sabrer Huawei parce que Huawei achète la plupart des composants stratégiques qui sont dans ces appareils, c'est-à-dire les antennes 5G et les téléphones. Huawei les achète à des compagnies américaines. Donc le levier...
On ferme le tuyau, c'est bon.
Voilà, c'est ça. La dépendance à la technologie américaine de Huawei est un levier puissant qu'on n'a pas forcément sur TikTok et sur WeChat. Alors, le problème de ces deux applications, du point de vue américain, en fait, c'est l'utilisateur. Parce que TikTok, c'est très populaire chez les jeunes. Mm-hmm. Je l'ai dit, près de 70 millions de jeunes américains l'ont dans leur téléphone. Et donc, c'est les utilisateurs, en fait, vont abreuver de données les deux compagnies que sont TikTok et WeChat. Et on sait que le Parti communiste chinois, eh ben, sait savamment exploiter ces données pour surveiller sa population. Pourquoi ne le ferait-il pas avec les données des Américains?
Dimitri, quelles conséquences très pratiques de ce bannissement peut-on imaginer aux USA si TikTok est vraiment banni éventuellement racheté d'ailleurs par une boîte américaine?
Alors déjà, vous allez faire pleurer plein de jeunes Américains s'ils n'ont plus TikTok parce que vraiment, c'est très hypnotisant, ça cartonne et ça accroche beaucoup. C'est surtout très problématique pour Google et pour Apple, parce que dans le détail, le décret signé par Donald Trump et qui vient d'être attaqué par TikTok devant la justice américaine empêche les compagnies américaines de faire des transactions avec TikTok et WeChat. Ça veut dire, en gros, retirer tout simplement les applications de leur magasin, du Google Play Store et de l'App Store. Or, si vous voulez rester sur le marché chinois, et si on prend l'exemple d'Apple, 1/5 des ventes d'iPhone, elles se font en Chine.
Oui.
L'utilisateur chinois, s'il doit arbitrer entre l'iPhone et WeChat, l'arbitrage va être vite fait.
WeChat.
Il sera pas en faveur de l'iPhone, exactement. Et donc, Apple est en train de se battre. Et là, on voit d'ailleurs la puissance du lobbying d'Apple qui vient d'obtenir, dit-on, c'est Bloomberg qui l'affirme ce matin, que l'interdiction de TikTok aux États-Unis ne concerne pas le marché chinois. C'est aujourd'hui la pointe saillante de cette guerre globale, de cette rivalité qui est tous azimuts entre la Chine et les États-Unis et qui ne fait que s'amplifier, surtout depuis le début de l'épidémie de coronavirus. On sait que le discours de Trump s'est radicalisé vis-à-vis de la Chine à cause du Covid, parce que ça a cassé la croissance américaine et que la croissance, c'était l'essentiel du bilan de Donald Trump en vue de sa réélection, peut-être le 3 novembre prochain.
Eh bien écoutez, vous m'avez largement éclairé, j'ignorais tout. Je partais de bas, hein, il faut dire.
Super application.
Merci beaucoup Dimitri Pavlenko, Emmanuel Faux et Louis Osalter, les trois spécialistes de ce mardi matin sur Radio Classique. Il est 7h50. Dans un instant, le journal imprévisible Sean Connery. Il a 90 ans aujourd'hui, l'immense acteur écossais. Ça vaut bien 5 minutes d'antenne sur Radio.